L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère, ses coassements, ses piaillements, ses bourdonnements. Il y a un peu tout ça dans notre milieu du jour, les zones humides. C'est une émission réalisée avec l'association Bretagne Vivante. Alors parfois on s'intéresse à un type de faune. Le mois dernier c'était les oiseaux des jardins. Parfois on scrute un milieu. Et bien dimanche, voyez-vous, c'était la journée mondiale des zones humides, une journée internationale pour sensibiliser le grand public aux zones humides. Alors on a pris conscience de leur importance il y a longtemps, dans les années 1960, mais c'est en 1971 qu'a été signée la convention de Ramsar, c'est en Iran. 157 pays ont signé cette convention pour la protection de la biodiversité dans des sites bien identifiés comme zones humides dans le monde entier. Bretagne Vivante participe à l'opération à l'occasion des journées de la journée des zones humides. Elle propose même des animations zones humides pendant plusieurs jours. Lise Valienne, la nouvelle chargée de communication de l'association, est venue nous faire un coucou, mais elle ne parlera pas aujourd'hui. Et elle est accompagnée du bien connu Luc Guillard, naturaliste, plutôt botaniste, aussi ornithologue. Bonjour Luc.
Bonjour.
Alors, ça fait du bruit en effet, je ne sais pas pourquoi. Ce ne sont pas des piaillements de zones humides.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est une zone humide pour commencer, même si le sujet est très vaste?
Ouais, le sujet est super vaste en fait. Zone humide, il y a plusieurs façons de les considérer. De façon très logique, simple et instinctive, intuitive, on pourrait dire une zone humide, c'est un endroit où il y a de l'eau qui est mouillée, et où de toute façon, on va devoir à coup sûr, à un moment donné, chausser les bottes pour pouvoir y accéder.
Donc, le critère, on met ses bottes.
Oui, c'est pas mal ça déjà comme critère. Ouais.
Alors, ceci dit, quand c'est un lit de rivière, on va pas. Enfin, c'est pas vraiment une zone humide, c'est une zone humide, bien sûr, mais est-ce qu'on peut dire que ça en fait partie?
Oui, ça en fait partie, en fait. La rivière est une composante de ce complexe-là de zone humide ou de milieu humide, au sens large. Alors, il y a quand même une définition légale de ces espaces.
Il le faut bien.
Parce que c'est sur ces définitions légales qu'on va s'appuyer pour pouvoir agir éventuellement en cas de soucis vis-à-vis de la zone humide. Et puis aussi, c'est sur cette définition-là qu'on s'est appuyé pour les zoner, définir les espaces qu'on va considérer comme zone humide. Et dans le cadre desquels vont s'appuyer certaines législations, certaines contraintes ou autres.
C'est peut-être spécifique à la France ou c'est définitions mondiales?
Il y a une définition, on pourrait dire mondiale, puisqu'il y a Ramsar. Donc Ramsar a proposé une définition. Il y a une déclinaison, je crois, européenne aussi. Et puis, il y a une précision en France, une application, une déclinaison dans le cadre du Code de l'environnement.
Et alors, c'est quoi la définition réglementaire? Enfin, sans rentrer dans tout le détail, mais...
Moi, je trouve que c'est une belle définition, en fait. Pour un texte législatif, elle est presque poétique. Donc, c'est plutôt pas mal.
Faut le signaler, ça mérite d'être signalé, en effet.
Il y a différentes poésies.
J'imagine.
Je l'ai noté, en fait. Les zones humides, donc au titre de cette loi-là, ce sont des terrains qui sont exploités ou non, habituellement gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, où la végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.
Alors, plantes hygrophiles, c'est qui aime l'eau, je suppose?
Exactement, Donc,
C'est les plantes. Donc, c'est pas tellement les animaux, finalement, qui définissent la zone humide.
C'est plutôt les plantes. Comme d'ailleurs, dans beaucoup de circonstances, les habitats, les milieux, sont souvent plutôt... nommés, définis, identifiés, visibles à travers les groupes de plantes qui s'y développent. Et donc pour les zones humides, ça marche comme ça.
Parce que les plantes ne bougent pas, je suppose que c'est pour ça.
Les plantes ne bougent pas, intègrent beaucoup de caractères du milieu, justement. Mmh. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'eau? Est-ce que l'eau est présente plus ou moins longtemps? Mmh. Et donc ça va contribuer à cette définition. Puis dans la définition, je me permets, il y a un truc, moi je trouve, qui est important à avoir en tête, c'est que c'est pas que des zones naturelles, ça peut être des zones artificielles, très transformées, et l'eau, elle a pas besoin d'être là tout le temps non plus, parce qu'en fait, les zones humides, ça va évoluer, ça peut s'assécher une partie de l'année, se recharger en eau,
Et donc, oui, les mares de Platières, par exemple, c'est ça. Hein,
voilà,
ouais, par exemple. Sur des grès dans la forêt de Fontainebleau, par exemple.
Bah, voilà, ouais. Mais ça reste des zones humides. Vous arrivez en plein été, il n'y a pas d'eau. Mais bah, non, ce n'est pas une zone humide, mais si. Parce que justement, les plantes vont nous indiquer ça. Et voilà, elles sont encore là, pour le coup.
Et alors, chez nous, par exemple, les lavoirs, c'est les zones humides. Enfin, est-ce que légalement, c'est les zones humides, les lavoirs? Parce que ce sont des zones artificielles. Mais
ce
voilà.
sont des zones artificielles. Alors, c'est peut-être... Bah, tu, voilà, bonne question. Je ne dirais pas que c'est directement une zone humide. C'est un aménagement zone humide. Alors, on a tendance à les faire évoluer en mares, ces fameux lavoirs, quand ils ne sont plus utilisés. Garder de l'eau, développer de la permettre le développement de la végétation et les rendre accueillantes pour la petite faune, en fait, insectes, libellules, invertébrés ou amphibiens. Mm-hmm. Donc voilà, donc, à ce moment-là, peut-être, bah, c'est pas, on invente là, à ce moment-là, le lavoir, il devient une zone humide, en fait.
Ouais. D'accord.
Mais,
Et sinon, les zones artificielles, ouais, qu'est-ce que ça peut être d'autre à part les lavoirs,
bah, ça peut être des retenues d'eau, de barrages, par exemple, des grands lacs.
Ah bah oui, le lac du Drenec.
Le lac du Drenec, voilà, par exemple, dans le secteur. Mm-hmm. Là, on a des bassins. De bassins d'agrément, les étangs de Sarnan, des choses comme ça, là, ben ça rentre dans ce grand ensemble des zones humides, en fait.
Donc ça peut être des mares, ça peut être des lacs, ça peut être des dunes, des arrières de dunes, c'est ouais. ça, les étangs de Trinvel, par exemple,
exactement,
en Pays Bigoudin,
ouais. ouais.
Qui sont salés, ou saumâtre au moins,
ouais,
j'imagine.
Voilà, ouais, ils rentrent dans cette définition, en fait. Hein, il y en a vraiment une grande diversité.
Ouais, parce que sinon, il y a les tourbières des Monts d'Arrée. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ouais. par exemple, dans le Finistère, comme type de zone humide
Comme zone humide, ben, on a les grandes zones très célèbres, donc les marais arrière-littoraux, l'étendue Kurnik, par exemple, dans le Nord Finistère. Là.
D'accord.
On va avoir donc, les atteintes de Trinvel, comme tu as dit, qui sont célèbres. Mais on va avoir aussi finalement les moins célèbres, qui sont tout aussi importantes à l'échelle des bassins versants, c'est toutes les micro-zones humides réparties sur les dépendances des ruisseaux, et ça peut être de la prairie humide, de la prairie à jonc, tous ces micro-humides, des soleils, des boisements humides également.
Et des peuplerets, éventuellement, non ?
Les peuplerets sont de toute façon... c'est une plante...
Même si c'est cultivé, si on y cultive des peupliers.
Il y a le côté artificialisé. Quoi. Mm-hmm. On va dire, de notre point de vue à nous, dans notre association, que la peupleraie, c'est un peu dommage parce que c'est un milieu moins intéressant que certainement la prairie humide à hautes herbes qu'il y avait précédemment, quoi, avant la peuplerait. Mais bon, le propriétaire, il aura choisi de valoriser cet espace-là à travers une plantation d'arbres. Bon,
En général, on n'y met pas de pesticides ou d'intrants, de toute façon, pour faire pousser des peupliers, normalement.
Ah, normalement, non. Surtout qu'en plus, on est en zone humide.
C'est ça.
c'est le
pire oui, donc on n'a pas le droit.
Normalement, on n'a pas le droit.
Ouais.
Mais ce qui va se passer dans une peuplerée, c'est qu'on va faire une gestion mécanique. Et donc, quelque part, les effets, s'ils ne sont pas identiques à ceux des molécules de synthèse, là, eh bien, ce sont des effets assez désastreux aussi par rapport à l'homogénéisation de la végétation.
Oui. Donc, la végétation, justement, alors c'est pareil, j'imagine qu'elle est très variée, mais qu'est-ce que c'est la végétation typique des zones humides ?
Ça va être, par exemple, si on parle des boisements, on prend ça à un certain stade, on va avoir les saules, qui sont vraiment les arbres des zones humides. En zone tourbeuse, on va avoir le saule à oreillette, qui est un arbre qui va être plutôt caractéristique de ces lieux humides-là.
Mmh. Il a des oreillettes.
Ouais, il a des oreillettes. Ouais. En fait, c'est des petits bouts de feuilles qui sont de part et d'autre du petit pied de la feuille, du pétiole.
Ah oui, d'accord.
On se rappelle. Okay. Voilà. Mmh. Lui tiendra compagnie la bourdaine, par exemple, qui est aussi un petit arbrisseau des zones humides. Voilà. Après, on va avoir des formations végétales qui ont tendance à disparaître, qui ont beaucoup régressé avant qu'on les prenne en compte correctement. Les prairies humides, et dans le secteur ici, dans la gamme des prairies humides, on en a quand même une... J'allais dire une quantité, une palanquée. Il y en a beaucoup, en fait.
Ouais.
Et donc, dans ces plantes un peu emblématiques qu'on va avoir pour les qualifier, il y a notamment des orchidées,
une
plante qui parle pas mal en général. Donc, il y a l'orchis à fleurs lâches, par exemple, qui va être typique de ces zones-là, qui va tenir compagnie aux joncs à cutiflore, aux cyrses des Anglais et aux carômes verticillés. Et tout ça, c'est défini une prairie humide et un habitat d'intérêt communautaire. On peut s'amuser à qualifier les choses de plein de manières différentes. En gros, on la sort du lot. C'est pas la prairie à joncs classique, quoi.
Mais il y a quand même souvent des joncs dans les prairies, j'imagine. Dans les zones humides, pardon.
Oui, dans les prairies humides. Il y a des joncs, mais il y a vraiment des sortes de joncs.
Ah oui, c'est ça.
On peut pas tout le temps les mettre.
C'est pas sous prétexte qu'il y a des joncs, on peut pas dire, tiens, c'est une zone humide, c'est ça?
Si, on va dire c'est une zone humide, mais quand on regarde de plus près, on va dire, ah, c'est une zone humide qui est plutôt comme ci, qui est plutôt comme ça. Ah, c'est une zone humide qui est plutôt comme ci, comme ça. Oh, c'est une zone humide qui est très remarquable. Parce qu'il y a quelques exemplaires à Plougastel, d'Aoulas, de prairies qui sont juste uniques dans leur genre et qui sont des prairies humides.
Du fait de la végétation qui s'y trouve.
Voilà. Et certainement du travail qui a été mené par des gens. Parce que les prairies, c'est aussi un milieu qui est très travaillé.
Oui, bien sûr. C'est un milieu anthropique.
Anthropique, artificiel.
Oui, aussi. Mais c'est important qu'il y ait, par exemple, des vaches, enfin, je ne sais pas, du bétail, c'est ça, dans les prairies humides, pour entretenir cette prairie.
Exactement. Pour conserver son intérêt, par exemple, en termes de biodiversité, souvent l'action humaine va être vraiment fondamentale, en fait. Et donc, les éleveurs principalement, sont des gens qui vont utiliser ces espaces. Il y a même un regain d'intérêt pour ces espaces-là, notamment leurs caractéristiques de prairies humides font qu'elles vont continuer à fournir de l'herbe au moment où les prairies sèches, elles, ont bloqué, parce qu'il n'y a plus d'eau, elles sont à court d'eau.
Ouais.
Et donc la prairie humide va permettre de prendre un relais. Mmh. Et autant on les a abandonnées pendant longtemps, et donc le fameux saule a pris la place, c'est plus une prairie, c'est un boisement, c'est moins intéressant, enfin, c'est plus le même usage, en fait.
Ça, ouais.
Tandis que les paysans, enfin les fermes qui ont conservé des prairies humides, beaucoup témoignent de ça. Hein, disent,
en 2022, quand il y a eu la sécheresse,
par exemple, c'était bien de l'herbe. J'avais de quoi nourrir. Quoi.
Ouais.
Et autrefois, les prairies humides, elles étaient super chouchoutées, en fait. Parce que c'était l'assurance d'avoir gratuitement, c'est pas totalement gratuit, c'est du travail, mais pas d'intrants, pas d'engrais. Elle fournissait de l'herbe en plusieurs fois. Quoi. Mm-hmm. Il y avait vraiment une production d'herbe dans ces espaces-là. Quoi.
On n'a pas parlé des animaux, parce que il y en a beaucoup, on l'a évoqué très vite. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux un peu emblématiques des zones humides?
Le grand emblème des zones humides intérieures, on va dire, c'est la loutre. C'est la loutre.
Ouais.
Voilà. Qui ne
passe pas son temps dans la rivière, c'est ça en fait.
Ah non, elle est amphibie. Elle est très aquatique, elle est formatée pour vivre dans l'eau, ça c'est clair. Mais elle va crapahuter dans tous les sens, c'est un mammifère, elle respire dehors et tout.
Oui, c'est ça, Elle a besoin de se reposer sur la terre ferme de temps en temps.
Elle est très liée au milieu humide. On a même d'ailleurs longtemps dit que c'était un peu l'emblématique des eaux propres. Mais elle n'a pas attendu qu'on ait restauré la qualité de l'eau pour reconquérir de l'espace. Donc sans doute que le message était un peu court, en fait.
Ouais. Elle est résistante. Donc ça, c'est la loutre, oui. Puis sinon, quoi d'autre comme animal pas forcément aussi gros, d'ailleurs.
Il y a une foule d'oiseaux, en fait, qui sont aussi vraiment liés aux zones humides. On va quand même en parler, puisqu'en Bretagne, on a des très, très, très belles zones humides littorales. On est situé sur des voies de migration des oiseaux. Et donc, ces grands milieux humides sont indispensables à ces oiseaux qui, eux, sont pas liés à un pays proprement dit, en fait. Eux ne connaissent pas les frontières.
Ils font des escales.
Ils sont en escale, là. C'est l'image hyper classique qu'on utilise toujours, c'est des hôtels-restaurants sur leur route migratoire, quoi.
Ouais.
Et donc, en fait, ils vont exploiter sur ces sites-là la grande richesse de ces lieux, parce qu'en fait, ces zones humides littorales qu'on a négligé, comme tu l'as dit au tout début, on a commencé à reprendre conscience dans les années 70, mais en fait, ce sont des zones d'une grande richesse où il y a une quantité de biomasse, de production primaire, mais qui est juste gigantesque, sans qu'on n'y fasse rien. C'est qui est quand même pas mal.
Mmh.
Et donc, c'est cette production-là de nourriture, de plancton, et puis d'invertébrés, enfin, toutes les chaînes alimentaires qui s'initient dans ces espaces-là, sont notamment exploitées par ces oiseaux, quoi.
Et donc, par exemple, oiseaux les plus célèbres.
Un oiseau, il n'est pas forcément célèbre, mais il est très suivi, en fait. Il y a le phragmite aquatique.
Ah, si, quand même.
Il commence à être célèbre,
Il a un nom bizarre, mais bon.
Oui, c'est ça, ouais. C'est un petit oiseau rayé de brun, une fauvette des marais, dont les populations, enfin, qui est vraiment très menacé au niveau européen.
C'est pour ça qu'il est suivi, je suppose.
Ben voilà, il a bénéficié de plans d'action au niveau européen. J'ai des collègues, moi, qui travaillent dessus en local et à l'échelle nationale, d'ailleurs. Et notamment, ben, ces zones humides marécageuses, littorales, je pense aux étangs de Travel notamment, font partie de ces haltes migratoires indispensables, quoi. Et quelque part, dans l'histoire de ces zones humides, on en a perdu plein. Il y a eu une régression phénoménale dans le cours du XXe siècle, où ces zones ont été totalement transformées. Mmh. Et par rapport aux phragmites notamment, il y a d'une part la disparition de ces zones, drainage, assèchement, conversion en champs de maïs, des choses comme ça, et l'abandon. Donc il y a les deux phénomènes qui ont joué conjointement. La déprise d'une part, en gros on s'en occupe plus.
Et alors qu'est-ce qui se passe quand on s'en occupe plus? Ça se transforme en forêt quand même quand c'est au bord de la mer?
Ça va être compliqué, mais il y a des parties qui vont se transformer en forêt, mais c'est surtout que le couvert en herbe va se modifier l'usage humain, le pâturage, entraîne des structures de végétation avec des plantes hautes, des plantes basses, des zones plus rases. Mmh. En fait, le phragmite, il aime bien ça, lui.
Ah, ouais.
Dès que c'est trop homogène, ouais, ça lui plaît moins, quoi.
Oui, mais là, elles sont plus pâturées quand même, les étangs de Trinvel, tout ça, si, ils sont pâturés quand même.
Il y a du pâturage en périphérie, ouais.
Ok.
Ouais.
Est-ce que, c'est une question en passant, mais est-ce qu'il y a quand même une surface minimale pour être définie comme zone humide? Enfin, j'imagine qu'on a 2 mètres carrés, on ne peut pas être classé zone humide.
Bonne question. Ouais. Non, il n'y a pas de surface minimale. D'accord. Une zone humide, c'est une zone humide. Voilà.
C'est mieux quand c'est grand.
Mais voilà. Par contre, il y a des surfaces minimales pour soit des autorisations ou des déclarations de travaux en zone humide. Ça, c'est un peu dommage.
Parce qu'on fait quand même encore des travaux en zone humide.
Bien sûr, ouais. On est même dans une phase un peu de tentative de recul des acquis environnementaux, où justement, on voit poindre là, se dessiner des zones de tension à nouveau autour des zones humides, justement par rapport à des conflits d'usage, quoi.
Plutôt en littoral ou pas spécialement?
Ah non, pas plutôt en littoral. Si on prend le bassin versant de la Vilaine, par exemple, là, il y a dans le cadre du SAGE Vilaine à l'heure actuelle, il y a des...
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE.
Ouais. Ouais. Il y a des envies, notamment d'une frange de la corporation agricole, de revenir sur des acquis environnementaux ou d'avoir une application beaucoup plus... on va dire moins exigeante de la loi, quoi.
Et pas pour faire de l'élevage, parce que on pourrait, voilà, si c'est de l'agriculture pour faire de l'élevage, c'est favorable à ces zones humides, mais là ça serait pas pour ça, ça serait pour faire des champs de maïs ou des...
C'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt le souhait de gens qui sont dans d'autres systèmes de production où l'élevage n'est plus là, ou des conversions plutôt des orientations vers la culture, notamment culture céréales et notamment maïs.
Grande culture, comme on dit.
On va dire grande culture, voilà, et donc... ce sont des cultures, en plus, dans le changement climatique, qui ont les besoins en eau, on les ressent de plus en plus. Les ressentent de plus en
bien
plus.
Bien sûr.
Et donc, on va avoir la tentation de vouloir garder de l'eau dans des bassines, pour dire le nom.
Au détriment des zones humides, quoi.
Au détriment des zones humides, au détriment. Alors, un truc qu'il faut dire aussi, quand même, c'est que c'est l'eau dont on parle, c'est un bien commun. Il appartient à personne.
Exactement.
Il appartient à tout le monde.
Ouais.
Et donc, quelque part, on doit plutôt, et c'est le cadre de ce qui se fait dans le cadre des sages, des SDAGE et autres, là, c'est de réfléchir ensemble à comment on peut gérer au mieux ce bien commun. C'est même le socle de la loi dans le Code de l'environnement qui stipule qu'on doit mettre en œuvre tout ce qui va sembler indispensable à la gestion à long terme, donc pour tous ceux qui vont nous suivre, de ce bien commun, quoi.
Oui, et parce qu'il faut là, peut-être qu'il faut qu'on aborde quand même toutes les fonctions, toutes les utilités, toutes les des zones humides. Alors, on a parlé de la biodiversité, mais enfin, il y en a plein d'autres, en fait, c'est ça. Hein.
Oui, voilà, oh là là, oui.
Alors... Allons-y, on attend encore un peu.
Oui, il y en a plein d'autres. Alors, on va les résumer dans des grands blocs, en fait. Hein. Donc, les fonctions biologiques, voilà, on les a évoquées.
Héberger des animaux, des plantes, etc.
Alors, voilà. Héberger des animaux, des plantes, sauvages. Mais il y a une autre fonction qui est très économique, c'est héberger aussi des activités économiques. Donc, court sur l'élevage, les activités de pêche, par exemple, aussi, des choses comme ça.
Oui, les pêcheurs sont en général attentifs aux zones humides.
Ah le lac de Grandlieu, qui est une grande zone humide à côté de Nantes, il y a une activité de pêche professionnelle dessus, en fait.
Ah oui, professionnelle, c'est même pas pour la plaisance,
non, enfin, pas
la
plaisance, le loisir, quoi.
Le loisir.
Ouais, non, voilà, ouais. Donc il y a tout, ça a été évalué, ça, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une contribution au niveau économique qui est quand même pas négligeable, hein, loin de là, et notamment sur le plan agricole, hein, il y a pas mal de fermes quand même qui utilisent les marais, utilisent l'élevage. Les moutons, l'élevage de moutons de présalé en baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, bah, ils élèvent en zone humide. Hein,
et
donc,
oui.
Voilà. Donc il y a ça. Les autres grandes fonctions, après, on va parler de le grand mot, hein, qu'on va, je vais le citer parce qu'on le lit, on l'entend, c'est les services écosystémiques, donc et ça oui. rend des services.
Le grand mot.
On s'est rendu compte d'un truc d'ailleurs, que, enfin, on tente de le mesurer, c'est que quand on doit payer donc, pour remplacer le service qui n'est plus rendu par le milieu, par l'écosystème, ça nous coûte très cher.
C'est ça.
Ça nous coûterait moins cher, ça s'est évalué aussi.
C'est 5 fois plus cher, je crois, au moins. En général, c'est une moyenne. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est assez marrant. Enfin, c'est bien d'avoir ça en tête. Les moyens que l'on met dans la conservation de ces écosystèmes, dans leur bon pour leur fonctionnement optimum, on va dire, eh bien, ils ne sont pas perdus, en fait.
Non, c'est pour éviter d'avoir à dépenser 5 fois plus après.
Exactement. Voilà.
Et donc, ces services, quels sont-ils ?
Alors voilà, je vais finir par y répondre. Ouais. Bah, il y a tout ce qui va concerner la régulation de l'eau, en fait, les zones humides, ça va... Voilà, l'image qu'on utilise à chaque fois, et je la cite aussi, c'est une éponge, et donc ça va garder de l'eau à un moment donné quand l'eau
quand
est... Quand il pleut, en période de précipitation, et puis bah, ça va restituer progressivement cette eau, quoi.
Bon. Ça empêche les ruissellements, les inondations, accessoirement.
Ça va freiner, ça va pas les empêcher, parce que
freiner,
justement, faut pas que ça arrête, mais ça va ralentir tout ça. En fait, les gouttes d'eau, une goutte d'eau va arriver beaucoup moins vite en partie basse du bassin versant. Elle va rester à séjourner, voilà. Et en séjournant sur au fil de l'eau, comme ça, sur le bassin versant, dans les prairies humides, dans une tourbière, dans un marécage, dans une solette, dans tout ce qu'on veut, eh bien, elle va perdre aussi ses polluants, parce qu'une goutte d'eau, elle se balade avec... elle trimballe des trucs.
Dépollution.
Donc, il y a une fonction de dépollution aussi. Ça va abattre l'azote, ça va dénitrifier. Et voilà, il y a tout un tas de phénomènes qui se mettent en œuvre dans les zones humides.
Un filtre.
Et c'est un filtre. Mmh. Voilà. Donc, filtration, régulation de l'eau. Alors, ça ne veut pas dire que ces zones humides vont empêcher les phénomènes comme on a vu à Redon, l'arrêt de Redon, là.
Les gros débordements.
Il y a des gros débordements. Après, ça pose la question aussi de l'état des bassins versants, c'est-à-dire des structures qui sont aussi là pour... qui ne sont pas elles-mêmes des zones humides, mais qui sont là pour aussi freiner l'eau. Donc, c'est tous les prairies, toute la couverture du sol, toutes les infrastructures qui imperméabilisent. On commence à se poser ces questions-là de remettre en fonction ces espaces-là pour compléter l'action des zones humides, en fait, aussi.
Oui, tout à fait.
Il y a ça... C'est aussi un lieu de bien-être. Il faut un peu y penser à ça. C'est ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai grandi plutôt dans des zones de marécage. J'étais en Grande Brière longtemps. Puis dans mon patelin du Morbihan, là, j'étais plus fourré dans les marais qu'autre chose.
Ouais.
Et en fait, c'est des lieux magiques, quoi.
Ouais.
C'est des lieux qui nous ont toujours un peu fascinés d'une façon ou d'une autre, quoi.
Oui, c'est pas que la malaria. C'est vrai que c'était bon longtemps, les marais, les marécages, c'était synonyme de maladie. De style paludisme.
Hein. Ah bah tout
voilà,
à fait.
Faut pas le nier, hein. Ça existait, parce qu'il y a des insectes, des moustiques.
Ouais. Paludisme, paludier, palu, c'est le marais. Hein. C'est la même racine, en fait, tout ça. Ah oui, ça veut pas dire que c'était
C'était pas des paradis
total.
Non plus.
Non,
ouais.
Voilà. Ouais. Mais ce sont les lieux où on s'est souvent installé en premier, les humains, parce que c'est des lieux qui, justement, produisaient beaucoup et qu'on pouvait survivre relativement facilement, quoi.
Et quand on dit maintenant, ce sont des puits de carbone, ces zones humides, ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire que il y a principalement les tourbières notamment qui ont cette fonction-là. Bah, en fait, elles vont stocker des matières organiques, des matières carbonées, donc les squelettes des plantes, des choses comme ça. Enfin, les squelettes. Tiges, feuilles, tout ça.
Ouais.
Sans qu'elles soient complètement décomposées. Et donc, on va avoir, et les prairies, c'est ce qui se passe dans les prairies humides, on va avoir une couche de sol très brune. Bah ça, c'est de la matière organique qui reste stockée là, qui n'est pas minéralisée. Et donc, elle n'est pas redécomposée entre ces éléments de base.
Il n'y a pas de CO2 qui s'en échappe, à nouveau, quoi. Enfin, pas tout de suite,
non.
En tout cas.
Ouais. Mais Alors, je préfère le dire là, sinon tu vas recevoir du courrier.
Oui,
les marais émettent du méthane quand même. Ah. Donc, il y a quand même. Voilà,
qui est un gaz à effet de serre, c'est important.
Voilà. Ouais. Donc, bah oui, de toute façon, dès qu'on parle écosystème et écologie, bah, c'est jamais ni tout noir ni tout blanc. On va plutôt devoir chercher des moyens termes là.
Oui, c'est ça. Mais bon, les zones humides, globalement, elles nous apportent plus qu'elles ne nous incommodent, hein, c'est ça. Hein.
Tout à fait. Ah ouais, voilà. C'est vraiment ce sont des lieux vraiment fondamentaux.
Hein. D'où l'intérêt de les préserver. Bon, là, il nous reste une minute pour dire comment les préserver, mais bon, allons-y.
Bah, comment les préserver? Bah, déjà, alors, il y a deux choses. J'y pensais en réfléchissant à ce qu'on allait se dire. Il y a la sensibilisation, donc c'est déjà important de prendre conscience, donc c'est l'objectif des journées comme Ramsar, mais il faut se dire que tous les jours devraient être des journées de ce type-là, donc voilà, donc une journée ça suffit pas, faut vraiment en prendre conscience, et puis il y a aussi respecter tout le cadre législatif, tout simplement. Et là, il y a pas mal d'acteurs, en fait, qui s'attachent à ça, entre la direction départementale des territoires et de la mer, l'OFB, l'Office national de la biodiversité, police de l'environnement, la gendarmerie, tous ceux qui sont en charge de la police de l'environnement, les maires ont ces fonctions aussi de prendre en compte les zones humides, qui le sont de plus en plus, c'est vrai, dans les SDAGE notamment, dont c'est aussi la...
schéma départementaux d'aménagement et de gestion des eaux.
Voilà, qui ont pour fonction d'inciter en fait à prendre en compte ces zones, ces milieux-là dans tous les projets de développement en fait sur des territoires.
Très bien. Et puis alors, on peut les découvrir. Bretagne Vivante propose plusieurs balades. Samedi, ce sera Plonéoul-en-Vergne. Dimanche, ce sera Roscoff. Puis il y en aura d'autres après à Tréguin et à Concarneau la semaine prochaine. Et puis sinon, on réécoute tous les jours cette émission sur le site de Transistor. Merci. Au revoir. Merci.